10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, c'est l'islam au présent sur Beurre FM. Tous les samedis, vous avez une heure pour parler d'islam en direct avec l'imam Abdelali Mamoun. 10h, 11h, bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, j'ai mes fils qui sont un peu...
Qu'est-ce que vous faites? Tirez sur le fil, allez-y. Oh,
c'est
voilà.
Salam alaikum.
Ça fait 10 minutes que vous êtes en train de tirer sur votre fil de casque, je ne vais pas dire.
Que là, le...
Dites-moi.
Il a été...
Qu'est-ce qui se passe?
Par de je ne sais pas qui, mal...
Non, là vous êtes en train de le
désembobiner.
De le rembobiner.
Je le rembobine.
Et vous ne pouvez pas faire sans casque?
Oui, on peut faire sans casque.
Faites sans casque, voilà. Vous êtes un grand professionnel de la radio.
Mashallah.
Et moi je dis, mashallah, la capuche en fourrure. De l'imam.
Bah, ça fait presque un mois que je l'ai acheté.
Non, mais c'est aujourd'hui que je découvre votre capuche en fourrure, imam Abdelali.
Okay. Eh ben, écoute, khair.
Bon, comment vous allez? Ça va bien.
Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah, il comble de bonheur tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Et récompense toute l'équipe de Beurre FM pour le travail qu'ils font pour essayer de consolider les liens dans cette belle famille qu'on appelle la famille Beurre FM.
La grande famille. Quand vous avez dit ça, je sais pas quoi dire derrière, parce que c'est tellement beau, imam Abdelali, que là vous me laissez sans voix.
Sans voix.
Bon, vous êtes beau comme un imam qui va à la fête aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive?
Écoute, on travaille, il y a des mariages, on a plein de choses à faire.
J'ai mis votre belle abaya aujourd'hui. Vous êtes.
Oui, une abaya, un beau qamis, qu'on appelle le qamis. C'est un qamis, voilà. Le prophète, il mettait des qamis. Moi, je mets un qamis. Justement, j'avais voulu aujourd'hui aborder le sujet concernant les règles vestimentaires et qu'est-ce qu'il était tenu de faire en matière de règles vestimentaires, non pas par rapport à la nudité ou l'intimité de la femme, mais c'est bon Philippe, mais surtout sur l'aspect embellissement, c'est-à-dire est-ce qu'un musulman a le droit, par exemple, de porter des vêtements de marque, qu'est-ce qu'il est tenu de faire par rapport à ses vêtements? Quand Dieu est dans le Coran, il dit wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifiés. Que signifie cette phrase?
On fera la semaine prochaine.
On fera ça la semaine prochaine.
Si vous voulez bien, parce que j'ai un autre sujet à vous proposer aujourd'hui que j'ai bien travaillé, imam Abdelali, pour vous. Ce sont des mots, et je vais vous demander d'abord ce qu'ils signifient. C'est le mot walaya et adawa.
Oui, donc.
J'ai prononcé comme j'ai pu.
Adawa, voilà. Eh bien, c'est la notion d'animosité. Le mot adawa, ça veut dire animosité. Adou, c'est l'ennemi. Quand on parle d'un adou, adoui, c'est mon ennemi. Tu vois, on dira que c'est quelqu'un qui est l'ennemi de quelqu'un d'autre. Adou, adawa. Et le contraire, c'est la walaya. La walaya, où par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est le wali de ceux qui sont croyants. Allahu waliyul ladhina amanu. Et en même temps, il parle d'une récompense qu'il accordera à ceux qui seront les awliya, c'est le pluriel de wali. La khawfun alayhim, ils n'auront aucune crainte, wa lahum yahzanun, ils ne seront jamais affligés. Quand il parle des awliya Allah, les awliya, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'objet d'alliances, ceux qui ont pris parti pour Dieu, ceux qui se sont mis du côté de Dieu, ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu et se sont mis dans le camp de Dieu. Hein, les awliya, c'est-à-dire ceux qui sont dans le camp de Dieu, mais attention, ils se sont pas mis dans le camp de Dieu ou du côté de Dieu simplement par intérêt. Ils se sont mis du côté de Dieu par amour. Donc c'est celle qui Rabbil Alamin considérera sincère parce qu'elle est motivée par des sentiments d'amour de Dieu que on considère que quelqu'un est un wali de Dieu, c'est-à-dire un aimant, quelqu'un qui s'est mis du côté de Dieu, motivé par l'amour, et avec un mobile qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que signifient ces deux expressions que l'on retrouve énormément dans le Coran. Dieu parle de que lui-même est le wali, donc il est d'abord, c'est un des attributs de Dieu. Quand Dieu parle de lui-même, il dit que moi je suis le wali. Al-waliyu, c'est l'allié, celui qui est dans le camp de ceux qui sont, bien sûr, les gens du bien, etc., etc.
Allié dans ce sens-là, mais regardez, moi je connais surtout l'imam Abdelali, le sens de wali, de wilaya.
Alors attention, là tu parles du wali. Attends, il faut prolonger le wa. Le wali, c'est le préfet. C'est le préfet d'une préfecture.
Donc rien à voir.
La wilaya en Algérie, par exemple, on parle de wilaya, c'est la préfecture. En Algérie, par exemple, aujourd'hui, il y avait 46 dans 48 préfectures. Maintenant, ils en ont rajouté, je crois, une dizaine encore. Ça fait, on est à plus de 50 et quelques préfectures en Algérie, c'est-à-dire des wilayat. Attention, je parle de oui avec un i, le i wilay avec le kasra. Alors que là, nous, on ne parle pas de wilaya, on parle de walaya. La walaya. هنالك الولاية لله الحق. Hein, quand ceux qui ont accompli le bien, ont cru en Dieu, etc., Dieu dira que cette attitude-là est la manifestation de la walaya, c'est-à-dire le fait d'être dans le camp de Dieu. Lillah, véritablement, haqqan. Donc, هنالك الولاية لله haqqan. Donc, haqqan, ça veut dire véritablement, et le mot haqq, ça veut dire la vérité. Et donc, c'est d'être tout simplement dans le camp d'Allah que d'être parmi les gens qui ont accompli le bien et qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont mis et qui se sont donc notamment aussi considérés comme étant les ennemis du diable, puisque le Coran, donc Dieu dans le Coran nous invite à considérer le diable comme notre adou. Inna ash-shaytana kana lakum aduwa, le shaytan est pour vous un ennemi, fattakhidhuhu aduwa, prenez-le comme ennemi. Parce que lui, إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الجحيم من أصحاب النار, il appelle ses alliés pour qu'ils deviennent les gens qui vont être voués à l'enfer et à la damnation. Donc attention, le croyant doit considérer le diable comme son ennemi parce que lui, il est pour vous, il cherche à vous nuire, il cherche à vous causer du tort. Donc le croyant doit avoir parfois une notion d'animosité et considérer certaines créatures comme étant ses ennemis. Il y a des ennemis humains, il y a des ennemis démons, des jinnoun, hein. Parmi eux, il y a le shaitan. Il faut savoir que le shaitan fait partie de la race des jinns. Et attention, la race des jinns, contrairement à la race humaine, c'est une race créée de feu, mais qui n'est pas forcément démoniaque, n'est pas forcément...
Il y a des bons jinns aussi.
Voilà.
C'est ça, il y a des bons et des mauvais.
Il y a même des croyants. Dieu, il a fait révéler une sourate qui s'appelle la sourate les djinns, où il rappelle à son prophète que des djinns ont entendu un jour le prophète réciter le Coran et qu'ils ont cru et qu'ils ont manifesté leur foi et leur croyance et ont attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Allah est le Dieu unique et qu'ils n'adoreront quiconque si ce n'est lui. Et donc ils ont considéré Dieu comme étant leur allié. Et ils ont considéré le diable comme étant leur ennemi. Donc voilà, c'est simplement ça. La notion de walayatu, al-walaya, c'est prendre allié, une alliance motivée par l'amour, alors que la adawa, c'est désavouer, c'est considérer quelqu'un son ennemi, et ceci, bien sûr, motivé par la on va pas dire la haine, mais par un sentiment de rejet. Parce que...
C'est moins fort. Le rejet, c'est moins fort que la haine, en fait.
Voilà. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir normalement de la haine pour quiconque, pour qui que ce soit. Même y compris pour qui que ce soit. On doit le considérer comme un ennemi, mais il n'y a pas besoin d'avoir de haine pour ça. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de mettre de la haine dans son cœur, de polluer, de souiller son cœur de haine, sous prétexte que il y a des gens autour de moi qui me veulent du mal. Donc, pour moi, pour pouvoir me préserver de ces gens-là, il faut que j'ai de la haine. Pourquoi? Parce que la haine n'engendre que la haine. La haine engendre l'injustice. Regarde, même le Coran, quand il parle de cette notion-là, il dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, et que شَنَاءً, c'est-à-dire un sentiment de rejet. Il ne dit pas adaw, il dit شَنَاءً. شَنَاءً, ça veut dire le rejet, la répulsion, le fait de rejeter quelqu'un. On va parler de شَنَاءً. Il dit dans le Coran وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءً وَقَوْمٍ, et que le rejet que vous avez pour certains ne vous pousse pas. À quoi? À quoi il nous dit? Il va nous pousser à quoi? An la ta'dilu, de ne pas faire preuve de justice, ou de commettre un acte injuste envers ces personnes contre qui vous avez du rejet. Hein, et le Coran est clair, dit même les gens que l'on déteste, même les gens contre qui on a du rejet et que l'on considère comme étant nos ennemis, nous n'avons pas le droit de faire preuve d'injustice à leur égard. Il dit, le Coran est clair. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا. Il dit ensuite, اِعْدِلُوا, soyez juste. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Ceci est plus près de la piété. Ceci est plus près de la crainte de Dieu. Donc, voyez un petit peu que la réalité de l'animosité n'est pas quelque chose qui fait l'objet d'un déni. C'est-à-dire que comme si que non, il doit y avoir que l'amour et donc on ne gère que la question de l'amour parce qu'il y a que de l'amour. Non, il peut y avoir parfois entre les hommes, entre des hommes et des djinns et des démons et des gens et des entités démoniaques, eh bien une certaine tension, une certaine on va dire confrontation, animosité mais attention, cette animosité ne doit en aucun cas nous pousser à commettre de l'injustice. Cette animosité ne doit servir qu'à nous préserver du mal des gens qui cherchent à nous nuire. Mmh. Oui, se préserver, oui. Se protéger, oui. Faire preuve de prudence, oui. Mais faire preuve de haine et de méchanceté, non. Même à l'égard de ceux qui sont méchants. On ne doit pas être méchant envers les gens méchants. Sinon, toi aussi, t'es méchant. Je vois pas l'intérêt de s'en prendre aux méchants. Si toi, tu deviens méchant, t'es comme eux.
Il faut combattre le mal par le mal.
Non, justement. Il faut combattre le mal par le bien. Et se défendre comme il se doit, repousser le mal avec la force s'il le faut, mais toujours avec bienveillance, toujours avec justice. C'est ce que dit le Coran. Et dis-lou, huwa aqrabu, faites preuve de justice quand vous en prenez à ceux qui ont déclaré leur haine contre vous et leur animosité contre vous. On ne doit pas se laisser emporter par les sentiments. C'est tout simplement la maîtrise de soi. C'est cette valeur intrinsèque à l'islam qui encourage le musulman à être quelqu'un qui a un cœur pur, qui dans son cœur il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'animosité. Il est tout amour parce que Dieu est amour et que Dieu ne veut pas que on se parce que si un démon réussit à mettre dans ton cœur de la haine, ben il a gagné. Même si cette haine c'est contre lui-même, contre ce démon-là, il a réussi. Il a réussi sa mission. C'est qu'il a fait de toi quelqu'un de haineux, donc de quelqu'un de malveillant, qui est donc quelqu'un de méchant. Donc voilà. Donc il ne faut pas se laisser prendre dans ce jeu. Et c'est justement ce haut degré de foi qu'on appelle la walaya, qui fait de toi quelqu'un de wali, et qui obtient la walaya de Dieu, puisque Dieu il le dit clairement. Dans énormément de versets, il met en garde contre ceux qui n'obtiennent pas cette wilaya, cette walaya de Dieu. Il dit par exemple, وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Vous n'obtiendrez pas en aucun cas de la part de Dieu un quelconque soutien, un wali, ni Dieu ne sera pas un wali pour vous, ni un nasir, c'est-à-dire un Dieu qui vous donnera victoire. Malakum min dunillahi min wali wa nasir. Allahu waliyul ladina amanu. Dieu est l'allié de ceux qui sont des croyants. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Il les fait sortir de l'obscurité vers la lumière. Hein? Wallahu waliyul mu'minin. Dieu est l'allié des croyants. Il dit aussi laysa lahum min dunihi min waliyyin wala shafi'in la'allahum yattaqun. Par exemple, quand il parle des idolâtres, il dit que ces idoles ne leur seront en aucun cas des alliés qui les même si eux ils se sont retranchés derrière ces idoles, eh bien ces idoles-là ne leur serviront à rien. Et il y en a plein, hein. Wa ma lakum wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhulli. Par exemple, il dit malahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada, etc. Il y a donc dans le Coran énormément de versets qui évoquent la notion de wali, où est-ce que Dieu est le wali des awliya. Ala inna awliya Allahi, certes les awliya Allah, les alliés de Dieu n'auront bien entendu aucune crainte auprès de Dieu, ne seront pas affligés. Et il dit même Allah subhanahu wa ta'ala que pour ceux qui seront des croyants, qui auront fait preuve de justice, qui auront fait preuve de rectitude, de istiqama, et il leur mettra des anges qui seront pour eux des alliés le jour du jugement dernier. Ils viendront défendre leur cause, ils seront de leur côté. Et il l'annonce même dès la mort de chacun d'entre nous et qui meurt dans la foi. Il dit innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, ceux qui diront que Allah est notre Dieu et ont fait preuve de rectitude, de droiture dans leur comportement, tatanazzalu alayhimul malaika, des anges viendront les voir. La takhafu wa la tahzanu, hein, ils leur diront n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Il dit ensuite nahnu awliyaukum, nous sommes ces anges là qui sont là près de toi, tes alliés, nous serons de ton côté le jour du jugement dernier. Donc cette notion de walaya est quelque chose d'essentiel pour le croyant. Il en a besoin à la fois dans ce bas monde et dans l'au-delà, d'être entouré par des anges qui sont ce qui deviennent ses alliés. Et dans sa vie, tout lui réussit et tout est fait pour que il puisse vivre une vie agréable et une vie de bonheur et de réussite, alors qu'au contraire celui qui se détourne d'Allah, qui se détourne du rappel de Dieu, eh bien n'aura d'autres alliés que des démons, des shaitans, qui ne seront pas des alliés, qui seront finalement des adous, c'est-à-dire des ennemis qui ne chercheront qu'à lui nuire et qui le feront qui bien entendu tenteront de le détourner et constamment de semer dans sa vie une ambiance, un climat de chakra, comme on dit chakra, ça veut dire de malheur, de mal-être. La maison, c'est constamment des embrouilles, tout le monde qui crie, tout le monde qui insulte tout le monde. Pourquoi? Parce que il y a que des démons. Et donc, il est très important de faire en sorte que nos demeures soient imprégnées par les anges, parce que les seuls vrais alliés des croyants, ce sont les anges. Et donc, il ne faut surtout pas faire fuir les anges. Alors, qu'est-ce qui fait fuir les anges dans les maisons?
On le verra tout à l'heure après une page de publicité, voilà. Imam Abdelali.
Oui, ouais,
et je rappelle que vous pouvez poser vos questions directement à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et vous développez pour nous aujourd'hui, Imam Abdelali Mamoun, j'ai failli pas le dire, hein, les notions de Walaya et de Addawa. Et vous étiez en train de poser cette question tout à l'heure, avant le début de la page de publicité, c'est qu'est-ce qui fait fuir les anges dans une maison?
Alors oui, effectivement, déjà c'est tous les propos obscènes que pourraient tenir les gens dans une maison. Et il y en a, hein, et parfois on en dit sans s'en rendre compte, et sans même y réfléchir. Et tout ça, c'est lié à des mauvaises habitudes, à des vices verbaux. Par exemple, quand on se trompe, au lieu de dire, je sais pas moi, punaise, on va dire pu quelque chose d'autre. Voilà, on va dire autre.
Punaise, personne ne dit plus. Hein.
Moi, je le dis parfois, mais
punaise de lit, mais
voilà, on dit purée aussi. On peut dire purée. Mais il y en a malheureusement qui ont pris l'habitude de tenir d'autres termes beaucoup plus vulgaires que ça. Et c'est ça aussi qui fait fuir les anges. Ça, les anges n'aiment pas ça. La cigarette aussi. La cigarette, ça fait fuir les anges. Ah oui, bien sûr, toutes les mauvaises odeurs. Le prophète dit dans un hadith, innal malaika la tata'adha mimma yata'adha minhu ibn Adam. Hein? Les anges sont lésés ou subissent le mal, c'est-à-dire quelque chose un mal-être de tout ce qui est de tout ce que peut mettre mal à l'aise un être humain. Par exemple, toi, t'es gêné par quoi? Par exemple, t'aimes pas la cigarette, ça. Personne n'aime la cigarette. En principe, l'odeur, elle est assez désagréable. C'est pas très agréable à sentir, la cigarette. Eh bien, les anges, eux aussi, fuient les mauvaises odeurs. Alors, ça peut être les mauvaises odeurs liées à la cigarette, mais aussi des mauvaises odeurs liées à effectivement, à une mauvaise hygiène de vie. Tout à fait. Moi, quand je vois certains gens, certaines personnes qui ont des odeurs nauséabondes parce que, je sais pas, ils se lavent pas ou ils changent pas assez de vêtements, etc. Donc, ils ont des odeurs. Ça fait fuir les anges. Alors qu'on est censé être entouré, enveloppé par les anges. Donc, le musulman doit se sentir bon. Le musulman doit être propre. Le musulman doit être un bon citoyen. Le musulman doit être agréable à voir et à vivre. Le musulman, si les gens apprécient sa présence, bien qu'ils sachent de facto que les anges aussi apprécient sa présence et aiment l'entourer, et aiment être autour de lui. Alors on y ajoute à cela aussi le fait d'avoir un chien qui traîne à la maison. Bon, alors je rappelle que pour les chiens, s'ils ont leur propre niche, leur propre garage et qu'ils sont dans une autre pièce, c'est pas interdit d'en avoir un. Surtout si c'est un chien de garde ou par exemple un chien d'aveugle, etc. Ces animaux-là ne chassent pas les anges. Par contre, ce qui va être problématique, c'est les chiens de compagnie. Il est bien entendu assez déconseillé d'avoir un chien de compagnie à la maison. Je parle déconseillé, non pas haram. C'est pas haram, ça interdit pas. C'est pas prohibé totalement, mais ça va être déconseillé si c'est inutile. Et ça, c'est basé sur des références seulement de la sunna, de la tradition prophétique. Donc, étant donné qu'à l'époque du prophète, il y avait des chiens et des chiens même qui rentraient parfois même dans la mosquée et qui urinaient même dans la mosquée. Donc, je ne vois pas comment aujourd'hui on vient nous dire « Ouais, mais la salive du chien, non, la salive du chien n'est pas impure. » Un chien, c'est une créature de Dieu, il faut la respecter, il faut bien la soigner, il faut pas la persécuter, il faut pas lui faire du tort, il faut pas la consommer. On n'y a pas d'élevage de chiens pour être consommé comme ça existe dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, on m'entend dire ça dans les demeures. L'imam, de quoi il parle? Il parle de manger du chien. Eh ben oui, il y a aujourd'hui en France, dans le monde, des gens qui mangent du chien.
Ça nous concerne pas.
Si, Philippe, ça existe. Non, mais bon. Même en France, il y en a des gens qui mangent du chien. Ça existe. Pas simplement dans la communauté asiatique, non, ça existe.
On n'en sait rien, vous pouvez pas dire ça. Enfin,
ça existe. J'ai pas dit qu'un tel ou un tel, j'ai accusé personne, j'ai dit que ça existe. Bon, en tout cas, la consommation du chien est la même interdiction que celle du porc. Il n'y a pas de différence. C'est aussi détestable de manger du porc que de manger du chien. Donc on ne va pas me dire, ouais, moi c'est exotique, j'aime bien, je vais aller dans un restaurant
qui
propose ce genre de choses. Mais si, mais il y en a qui vont même faire du
tourisme. Il y a des gens qui vous appellent et qui vous disent, je mange du chien.
Je vais en Thaïlande pour ça, ou je vais dans un pays asiatique pour faire ça. Pour aller trouver, pour manger du serpent, manger de, je sais pas moi, des animaux qui sont prohibés. Le serpent, c'est haram, manger du serpent. Donc toutes ces choses-là sont prohibées. Aussi, et ce qui va faire fuir les gens dans les maisons, pour revenir à notre sujet, Philippe.
Oui, parce que là,
on va pas s'éterniser, sinon. Là,
parce que moi, je veux savoir qui vous appelle pour dire, Imam Abdelali, je vais aller en Thaïlande manger du chien.
J'ai pas besoin qu'on m'appelle, Philippe. On le voit dans des reportages, des restaurants qui proposent du chien. Et des plats aux chiens ou avec d'autres animaux répugnants, encore plus répugnants même. Les statues, les images. Il faut pas mettre des statues et d'images d'êtres humains et d'animaux, des gros portraits d'animaux où est-ce qu'on voit les yeux, qu'on voit le visage. Si par exemple c'est des petits trucs qu'on voit en tout petit, c'est pas grave. Mais si c'est des gros portraits, il faut éviter. Ça va faire fuir les gens.
Si on a des posters, par exemple.
Voilà, à éviter. Si c'est un paysage, si c'est des montagnes, la forêt ou carrément une ville, mais on voit pas même la Kaaba, par exemple, on voit la Kaaba. C'est pas interdit. Même si on voit les petits personnages dessinés en tout petit, c'est pas grave. Mais si on voit un gros poster avec le gros visage bien évident, ça c'est à déconseiller. Je répète que tout ce que je veux dire là, on n'est pas dans l'interdit, mais dans le déconseiller. C'est dérecommandé de faire ça dans le macro. Voilà. Et donc à éviter au maximum pour justement laisser place aux anges. Pour qu'elles prennent place dans les demeures et imprègnent la maison et que vous soyez non pas tourmenté par des démons qui vont vous dire, ouais, regarde ta vie, comment ta sœur, elle t'a parlé, regarde comment ta mère, elle t'a parlé, regarde comment ton petit frère, il t'a parlé, etc. Et dans la maison, c'est tous les jours les scènes de ménage, les cris, les engueulades, les gros mots, les insultes, tout ça. Et tout ça, bien entendu, vous pourrit la vie parce que vous êtes censé rentrer chez vous pour vous reposer après une journée difficile, soit en tant qu'étudiant, soit en tant qu'élève, soit en tant que travailleur. Vous revenez du travail, vous avez envie de trouver chez vous, non pas, d'où le terme sakan qui veut dire logement. Eh bien, le mot sakan vient du mot sakina. La sakina, c'est la quiétude, la béatitude, la sérénité. C'est ce qu'on appelle la sakina. Et le sakan, le logement, on est censé ressentir cette sakina à l'intérieur pour se ressourcer, pour se reposer après une longue journée de labeur. Donc, essayez, faites en sorte de devenir les alliés des anges et non pas les ennemis et au contraire les alliés de Shaitan. Aussi, le Coran nous encourage à faire preuve de bienveillance et de bienséance, de bonne séance avec notre entourage et notamment faire preuve d'indulgence avec les gens qui vous font du tort. Quand il dit justement ceux qui sont pardonneurs et ceux qui font preuve d'indulgence et de magnanimité, il dit que l'aboutissement qu'une personne qui vous a fait du mal et qui vous voit indulgent alors que vous êtes capable de vous venger, eh bien il va se rendre compte que il a eu tort et là il va devenir votre allié. فإذا الذي بينك وبينه عداوة et soudainement ceux qui avec qui tu avais un rapport d'animosité et de tension كأنه ولي حميم il devient pour toi un allié et un hamim c'est-à-dire un affectueux à ton égard et donc faites preuve d'affection d'indulgence de magnanisme et là de magnanimité on va dire c'est ça magnanisme c'est pas je crois que c'est magnanimité qu'il faut dire. Et bien là, Allah Azza wa Jal fera en sorte que le cœur de celui qui vous déteste se transformera en amour et en affection. Et donc, il est très très important que le croyant prenne en compte cette réalité-là qui existe. Elle ne fait pas fi et elle ne dénie pas la réalité qu'il peut y avoir entre des hommes, quand je dis des hommes avec un grand H, hein, entre des hommes et des femmes, qu'il peut y avoir des tensions. Et elle ne dit pas non, le seul moyen de résoudre ce problème-là, c'est l'amour. Il faut de l'amour pour remplacer l'animosité. Oui, mais des fois, l'amour, il vient pas tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand l'animosité persiste? Eh bien, là, il dit, contrôlez vos émotions. On va faire en sorte que cette animosité ne dégénère pas et n'engendre pas d'injustice et ne transforme pas la réalité en chaos et ne transforme pas la réalité en une réalité de désordre et voire même de guerre et de tension dans la société entre les individus. Donc, il est très, très important que le croyant, quand il est dans cette démarche d'adorer Allah, notamment dans la prière, quand il tourne sa tête vers la droite, comme on l'a dit la semaine dernière, quand on a parlé de prière comme source de paix, eh bien, il dit à tout son entourage, Assalamu alaikum wa rahmatullah, en penchant sa tête vers la droite et son épaule droite, et ensuite il tourne sa tête vers la gauche, et il dit encore une fois, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Imam Abdelali, à qui ce statut de wali est-il réservé? Est-ce qu'il est réservé à des élus ou alors est-ce qu'il est accessible à tout le monde?
Alors c'est vrai que dans la science du soufisme, il existe des degrés de walaya, c'est-à-dire des degrés de sainteté, d'élévation spirituelle. Et pour chaque degré, dans cette science du soufisme, on va utiliser un certain nombre de terminologies.
Il y a combien de degrés?
Ah, il y en a plusieurs. Il y a par exemple le terme wated. Wated, c'est-à-dire celui qui est le pieux de la foi. Mm-hmm. C'est le plus bas degré de la walaya. Vous avez des degrés tels que al-qutb. Al-qutb, ça veut dire celui qui est le pôle de la foi. Il est le pôle de la foi. Alors, en général, il y a quatre pôles. On a quatre grands qutbs. Al-Aqtab al-Arba'a. Là, par exemple, on parle au Moyen-Âge de Ahmed al-Rifa'i, de Abd al-Qadr al-Jilani, de Ibrahim al-Dusuqi, et aussi Tijani, l'imam al-Tijani. Donc, ces grands saints étaient des Aqtab, selon la définition de ce que nous raconte la science du soufisme. Mais vous avez des degrés encore plus hauts. Vous avez, par exemple, Al-Alimu Billah, le connaisseur de Dieu. Al-Alifu Billah, celui qui atteint un degré de il s'est imprégné auprès de Dieu et connaît mieux que personne l'essence divine. C'est le Arifu Billah. Il y en a même qu'on parle de Arif Billah Dhati, c'est-à-dire pas de manière essentielle. L'autre va être dans le Sefa, dans les attributs, etc. Et donc, à partir de là, les degrés de sainteté dans le monde du soufisme vont évoquer que tous ces gens-là, tous ces degrés-là sont des degrés de walaya. On dira celui-là, c'est un grand wali. C'est un grand wali, c'est-à-dire il a atteint un degré de sainteté. Et je répète que tout saint qui prétend être saint, mais ne respecte pas les injonctions apparentes de la religion, c'est-à-dire celles qui sont concernées, qui concernent le commun des croyants, le commun des mortels, bien ne peut pas revendiquer une walaya. Moi, je vois des gens, ouais, ils vivent dans la vie en totalement insouciance des préceptes de l'islam, et ils disent, moi, je suis dans une démarche de soufisme. Je vais pas citer de nom, mais j'en ai en tête là. Je pourrais, j'ai ma langue là qui me brûle. J'ai envie de sortir des noms.
Vous avez, des dos?
Ouais, non, mais il y en a qui viennent dans les médias ou dans les réseaux sociaux évoquer le fait qu'ils sont dans une démarche soufie, alors qu'au niveau de, ils font même pas la prière. Vous dire non, moi je suis voilà. Ou parfois
c'est pas bien de balancer. Hein.
Je ne citerai aucun nom. Je ne citerai aucun nom. Mais je dis
qu'il fume la cigarette en plus.
Et ouais, il vient, il dit, moi je suis dans une démarche spirituelle avec cigarette à la bouche. Et comment tu peux parler de sainteté, de spiritualité alors que les anges t'ont fui déjà rien parce que t'as des cigarettes, tu fumes la cigarette. Donc on peut pas parler de d'élévation spirituelle alors que le minimum incompressible de ce qui concerne le croyant, le commun des croyants, eh bien il ne l'applique pas. Mais il se dit que non, c'est pas grave, puisque moi, je suis parmi les élites, les élus de Dieu, que Dieu a exempté. Non. Si tu te considères comme étant exempté, c'est que tu es à côté de la plaque. Eh bien, ça voudrait dire que le prophète lui-même se serait exempté de toutes ces pratiques religieuses, alors qu'il n'en est pas le cas. Le prophète n'a jamais raté une prière. Le prophète n'a jamais raté un ramadan, n'a jamais raté l'occasion de faire une sadaqa, ou de s'acquitter de la zakat, ou d'accomplir le pèlerinage, etc. Donc on ne peut pas parler de sainteté et d'élévation spirituelle si on n'est pas au minimum dans le dans l'application de ce qui est le minimum incompressible de la pratique de la religion. Je sais, Manu, il fume la cigarette, non, il n'est pas dans une démarche spirituelle.
Je voulais pas balancer mon camarade. Non, ah, ça se fait pas, Imam Abdelali. Non, ça se fait pas, Imam Abdelali.
Alors là, je pense que le soufisme et Manu, ça fait deux. On rigole, Manu. Je salue Manu, je lui fais un gros bisou. Un gros bisou à Manu.
Bon.
Je sais qu'il est avec toi tout à l'heure pour une belle émission cuisine.
Bon, allez, une page de publicité dans un instant. On revient, Imam Abdelali, vous pouvez poser toutes vos questions à l'Imam Abdelali au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et vous posez vos questions à l'Imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. On va à Toulouse et c'est Myriam qui est avec nous. Bienvenue Myriam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaban akhti Myriam, on vous écoute.
Alors, moi j'ai une question. Parce que je la comprends pas trop. J'ai lu dans le Coran. Je voulais revenir déjà sur les soufis qui prient pas. Je me suis demandé, est-ce que par hasard, c'est pas par rapport au verset. Attendez, je vais la retrouver. Le verset de la Surat al-Baqara. Je crois que c'est la 45-46.
Ouais.
Où apparemment ça exempte. Enfin, est-ce que quelqu'un. Excusez-moi, deux secondes, je retrouve le verset.
Dans le Surat Baqara ?
Oui. La 45-46. Alors, cherchez secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Est-ce que justement les certains soufis ou les personnes qui pratiquent pas la salat, moi c'est une question, hein, parce que peut-être que c'est ça.
Bah alors déjà, on va relire le verset correctement. Hein.
Oui, parce que moi je ne le comprends pas comme ça. Hein.
Ouais, non, pas du tout. Il dit quoi ? Et implorer. Implorer Allah avec patience. Sabri wa salat. Faites-vous aider. Faites-vous aider dans la réalisation de vos projets, de vos actions que vous menez, en utilisant la patience et la prière. Et il dit ensuite, wa innaha la kabiratun, et que cette prière là, cette dernière là, qui est la prière, est difficile et est lourde, est grande, est une lourde obligation. Elle est une lourde obligation, sauf pour les humbles. C'est-à-dire qu'elle est, difficile à réaliser. D'abord, c'est pas les humbles, c'est le khashi'in, c'est pas la bonne traduction du mot khashi'in. Khashi'in, ça veut dire ceux qui sont dans la méditation et la contemplation dans la prière. Et
donc
ceux qui...
pour eux, c'est facile.
Voilà, pour eux, cette obligation n'est pas lourde. Elle est légère, facile, au contraire, elle est agréable. Ouais. Hein, voilà, c'est dans ce sens-là.
Ça ne veut pas dire qu'ils sont exemptés.
Voilà,
veut dire que
bien
eux,
sûr que non.
C'est
bien
facile.
Sûr que non. Voilà, exactement.
Ah, on pourrait le comprendre comme ça.
Mais c'est pas on pourrait. On doit le comprendre comme ça. Il n'y a pas d'autre explication.
Oui, non, je sais, mais on pourrait, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans le Coran. C'est pour ça que le Coran, je le dis tout le temps, ça se lit pas, ça se comprend.
Ça se lit, ça se comprend, madame. Là, ce verset-là, il y a aucune ambiguïté. Je voudrais corriger. N'essayez pas de semer un certain doute sur la compréhension de ce verset-là. Ce verset-là, il est ce qu'on appelle un verset non équivoque, indiscutable dans la compréhension. Il dit, la prière est difficile et lourde à mettre en place et à appliquer, sauf pour les gens qui sont dans le khushu', c'est-à-dire qui sont les khashi'in, qui sont dans la méditation et qui profitent de cette prière, ils trouvent une jouissance. Au contraire, quand ils accomplissent cette prière-là, en aucun cas on ne comprend, et personne, aucun savant n'a jamais compris qu'il s'agit d'exempter les khashi'in de la prière. Au contraire, c'est faux.
Oui, c'est pour ça que
faut connaître l'arabe, c'est tout. Madame, il faut maîtriser l'arabe.
On va pas se faire engueuler parce qu'on ne comprend pas l'arabe ou parce qu'on essaye de comprendre.
Personne n'engueule personne, ma soeur. Personne n'engueule personne.
Ouais, voilà. Sinon, après, les gens, ils vont bloquer. Ils vont dire, si je pose la question, peut-être que...
Non, madame, votre question... Je vais vous dire un truc. Madame, votre question était très, très pertinente. Elle est très pertinente. Et il est important de lever l'ambiguïté de ceux qui pourraient utiliser ce verset-là pour ne pas faire la prière et dire, ouais, non, mais moi, je suis fait partie des khashi'in et donc je ne suis pas concerné par la prière, alors que ce n'est pas du tout ce que dit le verset. Ce n'est pas du tout. Et il n'y a aucun savant, aucun exégète, c'est-à-dire les savants dans l'exégèse, qui font le travail d'explication et de traduction du Coran, n'ont interprété ce verset-là dans le sens que vous l'évoquiez au début tout à l'heure, en disant non, le Coran exempte, Dieu exempte de la prière les gens qui sont dans le khushu'. Au contraire, s'ils sont dans le khushu', s'ils sont dans la contemplation et la méditation, ils devraient être ceux qui apprécient le plus de faire la prière. Et non pas de vouloir s'en écarter. Écoutez, madame, je vous dis franchement, quelqu'un qui vous dit, moi, je suis pas concerné par la prière, c'est un charlatan. S'il dit, en même temps, en se disant musulman.
Ouais.
Le prophète ne s'est pas exempté. Quel est le meilleur des hommes? Prophète? Non, oulala. J'ai raison ou pas?
Oui, bien sûr.
Hein, même Sayyidina Issa, alors qu'il est encore que dans son berceau. Il dit, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّ. Et Dieu m'a recommandé de faire la prière et de m'acquitter de la zakat tant que je suis vivant. Alors qu'il est que dans le berceau et déjà il annonce qu'il est un serviteur de Dieu. Inni Abdullah atani al-kitab, etc. Quand il va parler dans le berceau. Et il dit, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّ. Aucun prophète ne s'est exempté de faire la prière. Alors qu'on vient aujourd'hui dire, moi, au nom du soufisme, je vais pas faire la prière. Ça, c'est un pur charlatan. C'est du charlatanisme 100%. As-salat, as-salat. Le prophète, avant de mourir, c'est sa dernière parole. C'est ses derniers mots qu'il a sorti de son dernier souffle. Il a dit, as-salat, je vous conseille, je vous recommande le fait de faire vos prières. Faites vos prières.
Mais moi, je peux pas, justement, parce que, alors, franchement, moi, déjà, j'abrège vite fait, parce qu'en fait, avant, j'étais pas pratiquante. J'essaye petit à petit. Et quand j'ai lu le Coran, bon, pas qu'une fois, mais plusieurs fois, j'essaye d'apprendre l'arabe aussi, alhamdoulilah. J'ai demandé à Dieu de m'aider dans cette démarche. Et petit à petit, j'essaie de comprendre, et on a peur de se faire taper sur les doigts, justement, parce que c'est comme si c'était une évidence.
Madame, il n'y a personne qui tape sur les doigts de personne, madame. Arrêtons cette notion de tension, d'animosité. Il n'y a personne qui tape sur les doigts de personne.
Parce qu'on se fait toujours, pas que nous, hein, même vous, hein, si vous regroupez, même entre cinq imams, vous n'allez pas être d'accord chacun, voilà.
Ah bon, on va pas être d'accord sur cette question-là, je crois pas.
Pas cette question-là, mais sur un autre débat.
Oui, bah ouais, pour sonner sur des détails, d'autres détails, bien sûr. Pourquoi, à votre avis, madame, il existe dans le sunnisme, rien que le sunnisme, quatre écoles juridiques. Ça veut dire qu'il y a quatre écoles qui ont des avis différents.
Oui.
Ben oui, mais est-ce que ça les empêche de prier ensemble dans la mosquée? Non. Est-ce que ça les empêche de pratiquer le ramadan ensemble? Non. Est-ce que ça les empêche de faire le pèlerinage à la Mecque ensemble? Non. Ce sont des détails, des points dans lesquels...
Mais à mon avis, ça les empêcherait peut-être pas de dire à l'un ou l'autre, ah, regarde lui comment il a fait là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, c'est ça qui est dommage.
Madame, écoutez bien. Le fait de dire que c'est pas comme ça ou pas comme ça, dans un cadre scientifique, dans un cadre d'assises, d'apprentissage de la religion. Dans le cas, le gars, il va dire, il va émettre une fatwa, un avis religieux. Une fatwa, ça veut dire un avis religieux. Ouais. Dans lequel il va dire, voilà, il faut faire comme ça et pas comme ça. Et que l'autre qui dit ça, son argument ne tient pas parce que, et c'est une démarche respectable, respectueuse, et dans lequel il argumente une interprétation sur des détails de la pratique religieuse. Moi, là, il n'y a pas de problème. Mais que ces divergences-là soient extrapolées pour créer des clivages, des tensions, des clans. Il dit, ouais, moi, il y a le clan des Chafiïd d'un côté, le clan des Soufis de l'autre, les clans des Malikites de l'autre, le clan des Salafis de l'autre, le clan... Et pour créer des divisions au sein de la composante musulmane, eh bien là, effectivement, je suis d'accord avec vous que ces divisions ne sont que une menace et particulièrement détestable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si on peut ne pas être d'accord, dire, ah non, moi, je pense que ce verset-là... Mais je suis compétent pour le faire. J'ai les outils. Hein, j'ai les outils. Et le premier outil pour travailler le Coran, c'est l'arabe. Il faut pas simplement, parler le dialecte marocain ou le dialecte algérien. Il faut maîtriser la linguistique, la littérature, la grammaire, la conjugaison, l'issaniyat, l'adab, etc. Toutes ces matières qui sont des outils nécessaires à la compréhension de la langue arabe, sont eux aussi utiles et indispensables à la compréhension du Coran, qui est un texte en arabe. Ouais, mais quelqu'un, il vient, il dit, moi, je comprends le Coran à ma manière, tu parles l'arabe? Non, mais là, comment tu parles de... Ben, je le lis en français. Oui, mais le gars qui te l'a traduit en français, c'est qu'il t'a déjà proposé une interprétation en le lisant, en le traduisant en français. Mais donc finalement tu subis
parce que la preuve voilà, le mot humble voilà. C'était pas le bon
voilà, pas la bonne exactement
ça,
exactement
vraiment...
Al khushu', ça n'est pas l'humilité, c'est pas être humble. Al khushu', c'est le fait d'être concentré, la concentration dans la prière. Al khushu', Ah, c'est ça ce que ça veut dire.
Ça pourrait nous induire en erreur et c'est triste, c'est pour ça que je me mets à l'arabe et tout. Mais une chose encore, juste une question quand même.
Oui.
Si par exemple, lui, le soufi qui ne prie pas ou l'autre...
C'est pas un soufi, pour moi.
D'accord. Alors admettons, ou l'autre, par exemple, qui ne prie pas mais qui porte le voile. Ou
mais pour vous, ce n'est pas un soufi parce qu'il peut se revendiquer soufi s'il
oui,
le veut.
Oui, s'il veut. Mais dans ce que l'on comprend dans les livres du soufisme, et dans ce que revendiquent tous les saints et tous les savants du soufisme qui écrivent des ouvrages sur le soufisme, la définition, aucun n'a autorisé à une personne à dire, à se revendiquer soufi, alors qu'il ne fait pas la prière, ou qu'il n'applique pas le minimum incompressible de la religion. On peut pas parler d'élévation spirituelle si déjà à la base, tu les as pas. T'as pas la base. Skairi boit de l'alcool, il voulait que je suis soufi, je bois de l'alcool. Et c'est quand je suis éméché ou bien carrément dans un état second que je ressens mais c'est du n'importe quoi. Ça c'est purement démoniaque. Il s'est laissé embobiner par Shaitan celui-là qui lui a fait penser que l'alcool pouvait être une source d'élévation. L'alcool n'est qu'une source de pour s'enfoncer dans les abysses de l'enfer, pas plus. C'est proscrit, c'est interdit. On boit pas d'alcool en islam. Celui qui boit de l'alcool, il perd la raison. L'islam est une religion qui encourage à avoir un corps sain et un esprit sain.
Bon, Myriam, ce que vous pouvez faire, c'est poser votre question à l'imam Abdelali Mahmoud hors antenne sur le téléphone qu'il vous donne à l'instant. Inch'Allah, oui. Ouais. Imam Abdelali.
Alors vous prenez vos stylos, vous notez le 0, c'est le même, hein, celui que je donne depuis 10 ans. Hein. 06 29 25 35 00, je répète, 06 29 25 35 00. Je rappelle qu'on est dans la dernière ligne droite avant la fin du mois de janvier pour les inscriptions de la Omra du 23 février au 5 mars. Inch'Allah ta'ala, je vous invite à venir me rejoindre dans cette magnifique expédition et ce voyage extraordinaire dans lequel on va découvrir le berceau de l'islam, les lieux saints, comment le prophète il a vécu à la Mecque, comment il a vécu à Médine, comment il a laissé derrière lui un héritage extraordinaire et qui nous a légué et que on a le plaisir de profiter dont nous devons être fiers. Et voilà, c'est dans cet accomplissement de cette Umrah là que l'on permet, qui va nous permettre d'effacer tous nos péchés, hein, puisque le prophète dit al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima baynahuma, elle absout tous les péchés qu'on peut commettre entre elles, entre ces deux, les deux rituels de Umrah. Et il dit le prophète que la Umrah est une source de sérénité, de quelqu'un qui veut se ressourcer vraiment et trouver l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de lui trouver des issues à ses problèmes. Et bien il n'y a pas mieux que de faire des Umrah. Donc accompagnez-moi, venez me rejoindre au 06 29 25 35 00 pour faire une belle Umrah et vivre des moments intenses.
Voilà, et on vous donne rendez-vous avec l'imam Abdelali Mahmoud, donc samedi prochain. Dans un instant, nous serons à partir de midi, dessous de table spéciale, à faire le fermier des Vosges avec les protagonistes de l'affaire.
Wow.
Et nous aurons Fateh Kemosh de Alkens qui sera avec nous.
Et avec Manu.
Et avec Manu.
Source de magnanimité, il m'a dit.
C'est vrai.
Moi, je suis la source et le puits de l'affaire.
Vous cherchez les problèmes, imam Abdelali.
Parce qu'il s'appelle Mariani.
Ah, c'est ça.
Marianimité, il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit.
Allez, on vous donne rendez-vous tout à l'heure.
Salam alaikum.
Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.